J'ai toujours rêvé d'être footballeur. Tout petit, on jouait tous les footballeurs. Ça a l'air trop bien d'être un footballeur. Mais je voulais pas faire les corners. Est-ce que je peux quand même être footballeur? Ça a l'air trop bien d'être un footballeur. Je suis là si vous manque un footballeur.
Vous kiffez vraiment cette musique?
Mais la vie de ma mère, je fais pas le
goût. Bah évidemment.
Bah en vrai.
La dernière de Vald. V-A-L-D.
Puis il y a quelqu'un sur Twitter qui nous a reproché nos goûts musicaux, donc on s'est dit qu'on allait pleinement les assumer aujourd'hui.
C'est ça. Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière newsletter de Manuel qui a fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux. Bon, il y a une bonne punchline à l'intérieur, je vous laisserai aller la voir. Est-ce que les gens qui sont pas encore abonnés à ta newsletter, Manuel, peuvent voir les précédentes newsletters?
Jamais.
Oh, c'est beau. Donc on va devoir attendre la prochaine punchline.
Par contre, c'est une des questions qui m'est le plus souvent posée. Comment accéder aux précédentes newsletters? Bah non. C'est
ce
pas
sera
possible.
Sur son OnlyFans.
Ah ouais, c'est une trop bonne idée. Manuel sur OnlyFans, ça serait incroyable.
J'ai déjà découvert de quoi il s'agissait il n'y a pas longtemps. Non. Tu reçois les newsletters à partir du moment où tu es inscrit. Tu ne peux pas accéder à l'historique. Et peut-être, ça je peux dire, qu'un jour, il y aura une surprise avec. Les meilleurs newsletters ou un truc, une compile, je sais pas quoi, tu vois.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du pur plaisir. Hein. Les gens peuvent penser ou autre que la newsletter est payante, etc. Non, rien à foutre. Hein. Le podcast n'est pas monétisé, la newsletter est gratuite.
C'est vrai.
Faut ça préciser.
Pour autant, t'es pas obligé de faire ta promo comme ça. Enfin, ça va, te gêne pas, Manuel.
Quelle promo?
Il y aura des petites surprises prochainement.
Un best-of produit au Grand Rex, meilleurs newsletters de Manuel Diaz.
N'hésite pas, t'as des trucs à nous vendre, non? Tu vends une Fiat en ce moment, non? Sur Paris.
Non, pas du tout.
Renoncer pour manager, c'est le titre de ta dernière newsletter. Et il y a une personne qui nous a demandé, d'ailleurs, sur Twitter, d'en parler peut-être un peu plus, parce que c'est vrai que ça fait un gros sujet. Parce que certains deviennent managers par vocation, d'autres le deviennent malgré eux. Il y a plein de cas de figure différents, je pense, et c'est quelque chose d'assez flou, même pour moi au début, quand on en a parlé tous les trois pour faire genre de préparer ce podcast, pas du tout, en se servant évidemment...
Pour toi, Romain.
Pardon ?
J'ai envie de dire surtout pour toi.
Surtout pour moi. À la santé du colonel, tout particulièrement. Bon jus de pomme à tous.
À la vôtre.
Non, c'est vrai que c'était flou, parce que la première chose que j'ai demandé, c'est à qui on s'adresse réellement, en fait, parce que j'ai l'impression que tout le monde manage indirectement à un moment de sa vie, mais il y en a dont c'est réellement le métier, quoi.
Bah, un manager, c'est vraiment sa principale fonction. C'est de manager une entreprise ou alors une équipe. Non, mais parce que tu dis tout le monde manage, mais oui, on manage tous, mais ça ne fait pas pour autant de nous des managers.
Tout part d'un biais cognitif, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, tu vois, après la guerre, dans l'ère post-industrielle, on nous a appris que si tu n'étais pas cadre supérieur dans une entreprise, alors tu avais raté ta vie. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu n'es pas manager, tu vas rater ta vie, en fait, alors que pas du tout. Je pense que manager, c'est comme dit Léo, c'est une vraie fonction full-time. Ça demande de faire passer l'intérêt général devant l'intérêt particulier, c'est-à-dire de penser à l'équipe en premier avant de penser aux individus. Et c'est vraiment une responsabilité forte, c'est-à-dire que ça te demande de prendre la responsabilité de ce que font des gens et que toi, tu n'as pas fait, mais pour autant, tu es responsable. Mmh. Donc, je vais redire ça calmement, parce qu'il y a plein de gens pour lesquels c'est abstrait, mais ça demande d'être responsable de ce que des gens font et que toi, tu n'as pas fait.
Ou ne font pas.
Ou ne font pas, oui. Et pour autant de ne pas te défausser.
Et du coup, est-ce que un bon manager doit obligatoirement savoir maîtriser toutes les compétences que doivent réaliser son équipe?
Pour moi, pas du tout.
D'accord.
Pour moi, un
c'est pas un chef d'entreprise, c'est différent.
Mais même un chef d'entreprise, il connaît pas toutes les compétences qui composent son entreprise, parce que sinon, au bout d'un moment, ça le dépasse, en fait, tu vois, c'est pas possible. Un bon manager, c'est un leader. C'est quelqu'un qui donne envie aux gens de se dépasser, qui permet aux gens de s'accomplir, qui comprend quel est le levier individuel de chaque personne dans son équipe pour leur donner envie de se dépasser, d'avancer chaque matin, de se battre pour une équipe et de se battre pour un projet collectif. C'est celui qui va rappeler que le projet collectif l'emporte. voilà, moi je veux pas faire de métaphore footballistique, mais parce que je sais pas mon rayon, mais un manager, c'est un entraîneur, c'est celui qui va parler de l'équipe plutôt que des individualités, celui qui va composer l'équipe pour faire en sorte qu'elle soit équilibrée et complémentaire.
Et exactement, tout comme un entraîneur, c'est pas forcément bien jouer au football, il suffit qu'il connaisse les stratégies, qu'il sache comment marche l'humain, etc., pour être un bon entraîneur. Donc non, il n'a pas besoin de connaître toutes les compétences.
Et moi, ça me paraît fou, tu vois. Parce que si justement, on compare, en plus, on est en plein dans l'Euro, etc., c'est vrai que ça me paraît fou de voir des entraîneurs qui ne jouent pas ou qui n'ont pas du tout les mêmes compétences que les joueurs sur le terrain, et qui leur hurlent dessus parce qu'ils savent comment parler à l'un pour faire bouger l'autre et être dans une stratégie d'équipe.
Et c'est pas parce que t'as pas le talent d'expertise, le talent métier, que tu n'as pas d'avis sur la stratégie. Tu peux être un très bon stratège sans avoir le talent d'exécution.
C'est pas du tout le même métier.
Un expert, c'est un talent d'exécution. Un leader, un manager, c'est un stratège. C'est celui qui voit un petit peu plus loin et qui emmène le groupe un peu plus loin. Celui qui va avoir vraiment cette vision et cet engagement pour le groupe, au service du groupe. C'est ça le sujet.
Toi, quand tu vas au restaurant, t'es capable de juger si un plat est bon ou non. Pour autant, tu sais pas forcément le cuisiner.
Ah, c'est une bonne... Oh, oui, ok, c'est un bon...
Ça, on confirme.
On confirme.
Tu bâtard. Non, mais ce qui me paraît... Ce qui paraît compliqué, c'est simplement de se rendre compte que, du coup, manager, être manager, ça s'apprend. C'est pas forcément... Enfin, c'est même pas une vocation, en fait. C'est pas un truc où... c'est pas parce que c'est la personne qui ouvre le plus sa gueule dans l'équipe et qui, soi-disant, peut laisser paraître de faire avancer l'équipe que ça va être un bon manager. En fait, c'est vraiment une fonction qui s'apprend.
Bien sûr, ça s'apprend. Et après, je pense que tu as des prédispositions qui naturelles, on va dire, mais ça s'apprend. Bien sûr, ça s'apprend.
Comment t'apprends ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a ça pour vocation ?
Alors, la première astuce, je donne souvent une astuce, j'ai fini cette newsletter sur cette astuce-là, c'est tous les mecs qui demandent à être manager sont en général pas de bons managers.
C'est ouf.
En général, le très bon manager, c'est celui qui demande à pas l'être, ou c'est celui qui veut surtout pas l'être. Celui qui a vraiment un amour du métier, un amour de la tâche qu'il fait, etc., et qui comprend l'intérêt de l'équipe, le fait d'y arriver, de se dépasser, etc., et qui va voir au début le management comme on va m'empêcher de faire mon métier. Donc, si je prends un exemple dans notre industrie, qui est l'industrie digitale, eh bien, tu as d'excellents développeurs qui deviennent de très bons managers, alors qu'ils voulaient jamais, jamais être manager, parce que tu leur enlèves leur sucre. Tu leur dis « Ah ben non, mais je vais moins coder, je vais moins faire de code, mon kiff c'est le code, etc. etc. » Et en fait, ils deviennent d'excellents managers. Les mecs qui lèvent la main pour manager, en général, c'est qu'ils sont pas très bons développeurs. Mmh. Et qui comprennent de moins en moins l'équipe, la nécessité de se dépasser. Ceux qui le demandent le plus sont suspects pour moi.
Bah, pour autant, il y a quand même des gens qui... manage indirectement et qui prennent une place de manager dans certaines choses qu'ils doivent accomplir en équipe, que ce soit pour leur boîte. Donc parfois, ce sont des chefs d'entreprise qui ne sont pas de bons managers, qui n'ont pas la lucidité d'embaucher un bon manager parce qu'ils le deviennent un peu malgré eux, alors qu'en fait, peut-être qu'ils étaient bons que dans une compétence dans leur propre boîte, et pour que leur boîte évolue, ils doivent léguer certaines parties là-dessus.
Et d'ailleurs, c'est une lucidité qu'on a rarement en Europe. On va prendre un exemple très concret. Quand les fondateurs de Google, Sergey et Larry, créent Google et sortent de l'école et se disent « Ok, on tient un truc », et ils commencent à lancer Google, etc., etc., au bout d'un moment, dans le développement de Google, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas arriver à faire grandir cette boîte suffisamment et qu'il leur manque des choses. Cette lucidité, ils l'ont eue, et nous... En Europe, on l'a rarement, et en France en particulier. On considère que le fondateur doit forcément être le dirigeant. Mmh. Or, eux, ils ont embauché un mec, Eric Schmidt, qui a fait grandir Google. Ils ont nommé un mec CEO de Google. Ils sont restés cofondateurs, les deux. Ils se sont occupés du produit, chacun dans les trucs où ils avaient de la valeur, etc. Ils ont compris qu'ils étaient des ingénieurs, qu'il fallait qu'ils bossent avec les équipes produits, etc., etc. Et que le mec qui devait gérer le business et la politique, c'était plus eux, parce que ça devenait trop gros pour eux et que ça faisait appel à des compétences qu'ils n'avaient pas. Et cette lucidité-là, qui part d'une forme de renonciation. C'est pour ça que j'ai titré cette newsletter en disant renoncer pour manager. Elle est indispensable. À quoi tu vas renoncer pour pouvoir manager un sujet sur lequel tu as véritablement de la valeur?
Ça, c'est vraiment une chose que j'ai découverte en discutant avec toi, Manuel, parce qu'il y avait justement pour imager une chose que tu m'avais dit une fois. Tu m'as dit, il y en a qui sont bons pour amener une boîte de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, d'autres de 100 000 à 500 000 euros de chiffre d'affaires, d'autres de 1 million à 5 millions, et l'autre qui va te faire passer la boîte de 5 millions à 20 millions, et l'autre qui te fera passer le milliard. Et pour moi, j'étais... Enfin, c'était... méconnu total. Pour moi, pour moi, c'était forcément la même personne qui, en embauchant des gens, allait faire grossir cette boîte.
Non, parce que les problématiques sont pas du tout les mêmes, les enjeux sont pas les mêmes, et à un moment, tu es dans un marché qui va vite, qui a de la vitesse, et donc tu peux pas te permettre d'hésiter, d'apprendre, etc. Parce que sinon, tu régresses. Si tu stagnes dans un marché qui avance, alors tu régresses par nature.
Et tu te rends compte, ça veut dire que t'as fondé l'entreprise ou le projet, même un projet au sein d'une boîte dans laquelle t'es employé, t'as fondé le projet a grossi dans la boîte, etc. Et il y a un moment où tu dois être assez lucide pour aller voir peut-être la personne au-dessus de toi ou te parler à toi-même en face et te dire « je ne suis plus capable, je vais rester là, j'aurai peut-être toujours des parts, j'aurai peut-être toujours telle fonction dans le projet, mais je ne suis plus capable d'emmener la boîte plus haut.
Ben, » c'est ce qu'ont fait les fondateurs de Google, et dans un autre style, on pourrait parler de Microsoft. Qui a embauché un mec parce que derrière Bill Gates, ça a été difficile avec Steve Ballmer.
Ouais.
Hein, quand vous avez un petit coup de blues, allez voir la vidéo YouTube où il parle de l'iPhone. Elle est magnifique, en fait. Ça vous remettra un peu d'énergie et d'humilité. Ce qui se fout de la gueule de l'iPhone au moment où l'iPhone sort, en fait. Et il dit un produit à ce prix-là, etc., etc. On a des produits sous Windows Mobile qui marchent beaucoup mieux, etc. Je rappelle que Windows Mobile n'existe plus. Windows Phone encore moins, etc., etc.
Il se régale, là, Manuel.
Derrière Bill Gates, Ballmer, ça a été compliqué. Ballmer, c'était un copain de Bill Gates que le conseil d'administration a nommé en se disant bon, on va être dans la continuité, il est là depuis longtemps, il connaît la boîte, etc., etc.
Donc, mal sélectionné.
Et mal sélectionné. Aujourd'hui, celui qui fait passer le cap à Microsoft, c'est un mec qui vient avec... de la lucidité, de la compétence, et qui est à la hauteur des challenges de Microsoft, en fait.
Mais c'est intéressant que tu opposes autant la vocation à vouloir exercer ton métier, quand tu parlais tout à l'heure des développeurs, et le fait de devenir manager. Mm-hmm. Pour toi, quand tu deviens manager, c'est la fin de ta profession, en fait. Tu changes.
Non, pas du tout. Tu gardes ce mindset et tu auras toujours cette teinte particulière qui te permet de comprendre ce métier plus finement qu'un autre, mais par contre ton full-time job, ton occupation, c'est d'aider les experts à devenir meilleurs. Et à un moment, il y a un truc que les gens ne réalisent pas forcément, mais c'est que et j'en parle aussi dans la newsletter, c'est à un moment tu te dis bon, j'adore ce métier, ça fait peut-être 10 ans, 12 ans, 15 ans que je le fais, je l'aime, mais je ne l'aime plus au point de le faire tous les jours, parce que sinon, je vais m'en dégoûter. Et donc, on a tous des cycles dans la vie où tu peux adorer quelque chose, mais au bout d'un moment, tu as envie juste de passer à l'étape d'après. Et en fait, ces gens qui sont dans ce déclic-là, qui sont dans « j'adore ce métier, j'ai prouvé que je le connaissais bien et que je le maîtrisais, et maintenant, je veux me mettre au service plutôt d'une équipe et d'aider les autres à le faire mieux », ça, c'est plutôt le bon signe de qualité managériale.
Donc, quelque part, tu renonces à ton évolution au profit de celle de ton projet, de la boîte.
Tu renonces au fait d'être un expert technologique et de n'être que ça. Mais ce n'est pas grave. Par exemple, nous, chez Imakina, on considère que être expert techno ou être manager, il ne doit pas y avoir de différence dans la rémunération des gens. C'est pas parce que tu es un super expert techno que tu seras forcément moins bien payé qu'un manager.
C'est intéressant. Okay.
D'ailleurs, on a des experts techno qui sont plus payés que des managers. Ce qu'on paye, c'est ta qualité dans ta fonction. Voilà, c'est ça ce qu'on paye. Donc, si tu es très bon dans ta fonction, on va le payer, et on va le payer plus cher que le marché s'il le faut, pour te garder et pour faire en sorte que tu sois dans l'équipe. Mais il ne doit pas y avoir de voie obligatoire. Souvent d'ailleurs, dans beaucoup de boîtes, Le problème, c'est que quand tu es expert, la seule solution qu'on te propose, c'est de devenir manager. Alors qu'il y a des experts qui ne sont pas du tout faits pour devenir manager. Mais ce n'est pas pour autant que leur valeur décroît avec le temps. Tu as d'excellents experts qui doivent continuer à prendre de la valeur, continuer à être mieux payés, continuer à avoir des packages compétitifs, des primes, etc. etc. Et ça ne doit pas poser de problème.
Tu parlais tout à l'heure des gens qui lèvent la main pour devenir manager. Je pense que c'est en grande partie par rapport au statut et le fait de gagner plus, d'évoluer un petit peu dans ton métier, d'être au-dessus dans la hiérarchie. Je pense que ça, ça y contribue vachement. Des gens qui sont peut-être pas faits pour être manager, mais qui voient un statut supérieur.
C'est un biais cognitif.
Tu parlais justement d'ego dans ta newsletter.
Ouais, c'est un biais cognitif. C'est l'environnement social qui te dit « Ah ouais, mais si t'es pas manager, ben t'es en train de stagner. » Prenons Thomas Pesquet. Il est dans l'espace. Et il vient récemment de se voir confier le capitanat d'une mission à l'extérieur de la station spatiale, qui est marquée par un ruban rouge sur sa combinaison. Et on lui a donné ce capitanat, alors qu'il y a avec lui quelqu'un qui a plus d'expérience, je crois qu'il est russe, mais je ne suis pas sûr, c'est à vérifier, qui a plus d'expérience, qui a eu plus de vols, etc., etc. Mais pour autant, il ne dirige pas cette opération que d'aller installer des panneaux solaires à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale. Ça prouve deux choses. Un, que tu peux manager une situation alors que tu as moins d'expérience que quelqu'un d'autre, mais tu es meilleur manager, ça n'a rien à voir avec l'expérience et l'expertise opérationnelle, première chose. La deuxième chose, c'est que, bon, ok, il manage un truc, mais il n'est pas manager d'une énorme équipe. Il a surtout la capacité à peser sur une situation, à être rassurant, à leader le collectif. Il a démontré qu'il avait des réflexes de leader et de leadership, et tant mieux. Mais ce n'est pas moins valorisant qu'un autre expert. C'est juste une responsabilité différente.
Je pense surtout que les gens confondent qu'un bon manager, comme on l'explique depuis tout à l'heure, c'est un bon leader, c'est pas la personne qui va aller expliquer à une personne de son équipe comment faire son métier. Elle ne va jamais prendre une personne de son équipe en lui disant « Alors là, tu dois faire comme ça. » Non, elle va simplement lui dire « On doit aller là. » Et après, c'est la personne, si elle est bien choisie dans l'équipe, qui doit emmener correctement dans une tâche précise l'équipe jusqu'à son objectif.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les compétences pour être un manager. On revient plusieurs fois sur le football, en même temps on a commencé comme ça ce podcast. Le capitaine de l'équipe, c'est rarement la star de l'équipe. C'est pas forcément le meilleur joueur, c'est juste celui qui lead le mieux.
Exactement. Et t'as pas besoin d'avoir cette expertise. En fait, quand tu es manager, tu travailles la matière la plus difficile. C'est pas une expertise technologique, c'est pas de la connaissance, parce que la connaissance avec du travail, ça s'acquiert. Mais c'est la matière humaine.
La psychologie
aussi. Cette matière instable, difficile à travailler, qui demande de rentrer dans des cas particuliers, de gérer des paradoxes, de trouver un rôle à chacun, à certains moments... encourager, à d'autres moments sanctionner.
Et de s'adapter à chaque personne.
Comment trouver les équilibres qui vont derrière cela, etc., etc. C'est ça qui est difficile dans le management. C'est que c'est très subtil et tout est dans un équilibre entre des sentiments très opposés finalement.
Et à quel moment on se rend compte qu'on soit on n'est pas un bon manager ou qu'on n'a pas la fibre et que même si on apprend, on ne sera jamais aussi bon qu'une personne qu'on pourrait employer? Et dans ce cas, à partir de quel moment dans une situation, on doit se dire « Tiens, j'aurais besoin d'un manager ?» Parce que ce n'est pas la première personne qu'on va employer, évidemment. Mais
à partir du moment où ton équipe commence à vivre un certain mal-être. Moi, c'est très simple. Comment les managers sont évalués chez Imakina, à ton avis?
Sur satisfaction des équipes.
Comme au McDo, il y a une borne avec le visage qui sourit, celui qui ne sourit pas.
Chaque fin de journée, chez eux, ils ont une petite touche.
Exactement. En fait, les managers, ils sont évalués sur la vie des équipes.
C'est le bot que tu avais mis en place? Ça fait partie? Tu peux l'expliquer ça rapidement?
On a un bot chez nous qui pose des questions toutes les semaines sur le mood des équipes, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, est-ce qu'ils se sont sentis accompagnés, pas accompagnés, etc. On a aussi d'autres systèmes qu'on appelle les fail reports. C'est-à-dire que les équipes peuvent reporter un fail et dire bah ça c'est un fail, il faut qu'on apprenne à s'améliorer sur ce sujet, et malheureusement j'en ai parlé plusieurs fois et mon manager m'a pas répondu, etc. Et là le fail report, ça va taper le top management. C'est-à-dire que moi je reçois tous les fail reports et je les lis tous.
D'accord, donc après les managers, il y a des top managers.
Bah, les top managers, c'est souvent les
présidents.
Ouais, les fondateurs, les associés.
En fait. Mais c'est très important parce que ça doit régler tellement de problèmes.
Bah, en fait, ça donne un pouvoir aux équipes opérationnelles qui est de dire, attends, ok, je suis dans les mains d'un manager qui est censé me gérer, etc. etc. Mais si le mec commence à avoir la folie des grandeurs, se prend pour ce qu'il n'est pas et me fait vivre l'enfer, moi, j'ai une autre arme que j'appelle le fail report où je peux alerter le mec qui est au-dessus de toi en tant que manager, qui est le mec qui t'a engagé, qui est l'associé, le président, le directeur de la filiale ou je sais pas quoi, pour dire qu'il y a un truc qui va pas.
Donc le manager est pas invincible.
Donc on enlève le côté tout puissant du manager, exactement. Parce que sinon ça crée chez les managers ce sentiment de chez Fayon, là, qui m'est insupportable.
Un shérif est en ville.
Mais ce qui est fou, c'est que malheureusement, c'est la façon dont fonctionnent encore énormément de grosses boîtes aujourd'hui. Il y a plein de gens dans notre entourage, avec Léo, où quand il nous parle, on a l'impression que bon, bah, s'il y a la personne au-dessus d'eux qui les harcèle par email, il n'y a pas d'autre façon que de démissionner. Quoi. Tu te rends compte, hein, c'est catastrophique.
C'est souvent les DRH qui servent d'intermédiaire, mais ils ont assez peu de pouvoir sur le métier. Donc les mecs vont à la DRH en disant « Ah, mon manager se comporte pas bien. » Puis le DRH appelle le manager en disant « Eh oh, lève un peu le pied, etc. »
Mais ça tape pas le point sensible, quoi.
Mais c'est pas ça qui compte. Mmh. D'ailleurs, moi, je suis très fier qu'on soit une boîte de plus de 1000 personnes, bientôt 1500, qui n'a pas de DRH.
Ah oui.
Mon objectif dans la vie, c'est de ne jamais avoir de DRH.
Mais c'est très intéressant parce que, encore une fois, vous déconstruisez le statut de manager pour l'équilibrer un peu.
Bien sûr. En fait, la question, c'est que le manager a des responsabilités. Sa première responsabilité, c'est de tirer le meilleur profit de tous les experts, de tous les savoirs qui sont dans son équipe. Et il est jugé par deux choses. Un, ses résultats. Deux, l'appréciation de son équipe. Parce que s'il obtient des résultats exceptionnels, mais que son équipe dit... il est en train de nous pressurer comme des citrons,
c'est pas réaliste,
plus, etc. Ouais. Tu vas épuiser ton équipe qui va finir par se casser.
C'est un jeu d'échecs.
Donc c'est un équilibre des pouvoirs. Le manager doit arriver à obtenir des résultats en encourageant les gens, en gardant un climat le plus positif possible, en faisant régner un climat de dépassement et pas de terreur. Et de l'autre côté, on doit donner un contre-pouvoir aux équipes pour qu'elles puissent se plaindre de leur manager si elles en ont besoin. Et du coup, ça place les dirigeants dans un rôle d'arbitre entre les moyens utilisés par les managers et les feedbacks des équipes. Et des fois, tu avoues, tu désavoues tes managers.
Là où je suis sur le cul, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué. C'est beaucoup de lucidité, tout ce que t'expliques depuis tout à l'heure, Manuel. Et pourtant, il y a des boîtes énormes comme McDonald's qui n'appliquent toujours pas ce genre de truc-là. J'ai l'impression qu'un manager chez McDonald's, c'est parce que t'auras... Non, c'est touchy.
Non, c'est pas touchy. C'est que je pense que McDonald's, c'est le contre-exemple. Je pense que McDonald's, c'est une boîte très, très bien gérée.
Ben pourtant, j'ai l'impression que quand t'es manager chez McDonald's, c'est pas parce que tu viens d'arriver. C'est parce que t'as été déjà à la cuisine, au truc, au machin, que tu as le droit d'être manager et que t'as cet esprit très social.
Oui. Non, c'est la légitimité par le terrain. Tu peux finir patron de restaurant McDonald's et on connaît la rentabilité des restaurants McDonald's, alors que t'as commencé aux frites. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent le dire. Tu peux rentrer à la SNCF aujourd'hui. Tu finiras pas patron de la SNCF. Tu vois?
Ça, c'est vrai, totalement.
Et ben, ça, je trouve que c'est admirable d'être dans une entreprise qui te dit tu peux démarrer tout en bas et finir patron de restaurant, même en avoir plusieurs, et discuter avec l'enseigne nationale et donner tes feedbacks, etc. etc. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui devraient s'inspirer du management de McDonald's.
Et je ne me rendais pas compte de ça parce que c'était aussi quelque chose qui était chez Disney, qui est à peu près pareil. Tu peux démarrer serveur chez Disney et finir...
Plutôt et finir Mickey, ouais. C'est vraiment l'évolution chez Disney. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. À mon avis, ce n'est pas du tout facile. de manager une équipe, dès que des humains interviennent, je pense que ça rend la tâche compliquée en fait.
Bien sûr, mais j'avais justement vraiment l'impression de l'extérieur que des grosses boîtes comme ça privilégiaient l'ancienneté plutôt que les compétences à certains moments.
Oui, t'as raison. Mmh. Et souvent, on est promu à des fonctions managériales par l'ancienneté, la fidélité ou les résultats qu'on a obtenus.
Alors qu'on n'est pas un bon manager. Et mais c'est ça qui m'embêtait, c'est que d'un côté, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais d'un autre côté, je me dis, une personne qui est ultra efficace à la caisse, qui arrête, enfin, qui a un rendement vraiment plus élevé que les autres, etc. Pourquoi est-ce qu'il serait pas mieux payé sans être manager? Parce qu'il est, il est bon dans sa fonction et il est pas bon à être manager.
Ouais, souvent, ça fonctionne un peu comme le système scolaire. T'étais en quatrième, bon, bah, tu montes en troisième. Ça va, mec?
Ah, je me suis cassé la gueule complet sur le, sur la chaise, mais tout va bien.
Pourquoi t'as redoublé? Qu'est-ce qui t'a?
Oui, une fois, c'est vrai. Et après, j'ai plus le temps.
C'est exactement ça et je pense que c'est l'application d'une méthode un peu trop scolaire à l'entreprise. Ça n'a rien à voir. T'as des... Moi, souvent, quand je veux savoir ce qui se passe dans une boîte, nous, il nous arrive assez souvent d'auditer des boîtes.
Ça veut dire quoi?
Auditer des boîtes?
Ouais.
Auditer des boîtes, ça veut dire que tu as un directeur général, un président d'une entreprise qui te dit « Bon, voilà, on stagne un peu, ça ne va pas bien, je n'arrive pas à faire passer la boîte à l'étape d'après et j'ai besoin d'un avis pour nous aider à passer à l'étape d'après. »
Ah, vachement lucide, ça c'est fort aussi d'aller voir une autre boîte que tu connais pas forcément et qui t'a pas encore travaillé pour qu'ils t'aident sur la tienne.
Donc il mandate des gens comme Imakina pour aller auditer sa boîte et lui dire bon bah voilà ce que nous on a pu constater. Le premier truc que je fais en général, c'est que je vais m'asseoir à côté de la secrétaire à l'accueil et je discute avec elle et j'écoute les coups de téléphone.
Parce que c'est la première personne, la première porte d'entrée dans la boîte.
Le rond-point de l'entreprise.
C'est incroyable.
La boîte qui c'est l'endroit qui manage tout. Tous les flux d'informations, c'est majoritairement là. Les clients qui appellent pour gueuler au standard, l'ambiance dans la boîte, les relations qu'elle a avec les experts, l'attitude que le reste de l'entreprise a avec la secrétaire. Est-ce que c'est une attitude de condescendance ou pas? Tu as énormément d'informations à cet endroit.
T'es un peu comme le Philippe Etchebest de l'entrepreneuriat, en fait.
Ah bon?
Mais ouais. C'est de la merde ce que vous faites dans la cuisine, elle est pas propre votre cuisine.
C'est cauchemar en entreprise. En
c'est
fait.
Ça que
caché tout ce temps.
Ah, oh, ça serait fou comme émission avec Manuel. Je pense que ça durerait 2 minutes du coup, parce que Manuel ne sait pas faire en longueur si ça doit durer 1 minute. Ça,
oula,
c'est
oula,
sûr.
Non, mais ça après c'est perso, on va pas non plus aller sur ce terrain-là.
Non, c'est vrai. J'aime pas les trucs qui traînent en longueur si c'est pas nécessaire. C'est un des trucs que j'utilise et qui marche extrêmement bien. Moi, je trouve que les gens qui ont des responsabilités, les gens qui sont managers, directeurs de département, directeurs d'unité, directeurs de filiale, leur attitude par rapport aux gens qui sont en dessous d'eux dans la hiérarchie dit beaucoup de la culture de l'entreprise. C'est très facile, quand tu as des responsabilités, de terroriser les gens qui sont en dessous de toi, mais ça en dit long sur qui tu es et tes problèmes d'ego. Moi j'estime que tu peux avoir des débats des fois un peu vifs, des oppositions d'idées, etc., quand la personne en face de toi a les mêmes armes que toi, mais t'attaquer à des plus faibles que toi, c'est pas acceptable.
Et moi je trouve que justement c'est la partie la plus compliquée et c'est celle où ça doit faire tilt pour moi dans votre tête si vous êtes forcément soit l'un soit l'autre, c'est le fait de laisser s'exprimer les gens comme tu le disais dans ta newsletter, c'est de donner une mission et d'accepter que les gens vont faire différemment que tu aurais pu le faire pour arriver au même résultat. Et c'est souvent ce qu'on rencontre, même nous avec Léo, quand on va voir pareil que toi, tu vois, certains clients, etc., pour une autre mission donnée, on ne va pas s'installer à côté de la secrétaire. Et pour autant, on voit les gens qui sont, d'un point de vue managérial au-dessus, s'exprimer différemment, avoir un peu ce côté condescendance, dire « ferme ta gueule » avant même d'avoir été écouté la fin parce qu'il n'a pas commencé la phrase comme il aurait voulu le faire, etc. Et je trouve que c'est quelque chose, personnellement, à ma petite échelle, qui peut parler aux gens et qui fonctionne bien et que j'ai essayé et qui est juste génial, plutôt que de dire aux gens comment faire, essayer justement de leur donner, toi, l'objectif que tu veux à la fin, et de voir, et c'est d'ailleurs Steve qui avait dit ça, qui avait dit laissez les gens faire et soyez étonnés de la façon dont ils y arriveront.
Et en même temps, je pense qu'un manager qui terrorise son équipe, ça peut être aussi dû simplement à de l'incompétence.
Il ne sait pas comment faire autrement, en fait.
Parce que c'est très compliqué, comme on le disait tout à l'heure. Moi, je sais que mon père, il a dirigé des équipes en grande surface, et en fait, au début, il était trop cool, et du coup, les gens en profitaient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il commençait à être un peu moins cool, pour eux, c'était le manager qui les terrorisait, qui était un connard, etc. Donc c'est extrêmement difficile de gérer une équipe.
Bah, les gens adorent les gentils.
Et il ne faut pas verser dans le pays des bisounours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu manages quelque chose, tu es aussi dépositaire de la route, de la stratégie et des résultats. Donc s'il y a des gens qui s'opposent à cela, eh bien tu vas devoir t'en séparer. Parce qu'on n'est pas dans le service public.
Donc un bon manager, c'est aussi une personne qui peut virer très facilement les gens sans y attacher beaucoup d'émotions.
Un bon manager, tu lui laisses le champ libre, tu n'es pas là pour lui dire comment il va faire les choses et avec qui. Tu es là pour lui dire j'ai besoin d'aller là, je pense que tu as les compétences pour nous aider à aller à cet endroit et je vais te donner les clés pour disposer des moyens d'y arriver. Donc tu vas pouvoir choisir avec qui, à quel rythme, selon quelle méthode. Il y a 2-3 trucs que tu ne peux pas heurter qui sont les valeurs fondamentales de la boîte, parce que ça, tu dois y adhérer pour pouvoir l'intégrer, en fait. Mais à partir du moment où tu as adhéré à ces valeurs fondamentales, après, tu le laisses faire et tu juges sur les résultats. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'à certains moments, tu engages les gens, tu leur dis « Ok, tu as adhéré aux valeurs de la boîte, très bien. » tu es en train d'aller vers cet endroit, tes résultats, ça dit ça. Au passage, tu me demandes de changer 80% de l'équipe, donc de virer des gens qui sont là depuis longtemps et qui ne te conviennent pas pour telle ou telle raison. Mais si tu commences à t'opposer à ça, à lui dire non, tu es manager, mais tu n'as pas le droit de choisir tes coéquipiers. Je t'interdis de virer ces gens-là ou d'embaucher ces gens-là.
Il fait pas son taf,
etc. Ouais. Et bien, à ce moment-là, bah, l'embauche pas.
Ouais, il manage plus rien.
Donc, au-delà de la lucidité, il faut avoir une confiance à la fois en soi et en son choix, puisque si c'est toi qui as choisi le manager, t'as intérêt à pas te louper. Mais après, une confiance en lui ou elle, quoi, c'est ouf.
Bah, tu as une confiance, mais une confiance qui est aussi basée sur les résultats, c'est-à-dire que tu le laisses faire, tu regardes. Tu factualises les résultats et si les résultats sont pas là...
Tu fais comment? Tu réembauches les 80% qui sont partis?
Tu dégages le mec. Oui, parce que y a un proverbe que les Américains utilisent souvent qui dit « hire fast and fire fast ». Ça veut dire « embauche vite, mais vire vite ». Donc, ne mets pas 10 ans à réfléchir en te disant « est-ce que c'est la bonne personne ou pas ?» etc., etc. Non, à partir du moment où tu es convaincu que cette personne a de la valeur, embauche-la vite. Juge sur les résultats et si les résultats sont pas là, ça dégage. Je suis désolé, ça a l'air un peu sauvage comme approche, mais au moins c'est pragmatique. Ça permet de faire de perdre de temps à personne.
Oui, parce que même la personne qui est embauchée, tu lui fais pas perdre son temps, tu lui fais tout de suite comprendre que ça ira pas, quoi.
Exactement. Et tu le rends disponible pour d'autres missions, peut-être que dans une autre boîte, dans d'autres circonstances, dans un autre contexte, ça marchera très bien. Mais là, ça marche juste pas. Et donc, si ça marche pas, bah, il faut arrêter vite, avant de se prendre la tête, de s'abîmer, de rentrer dans des conflits inutiles, etc., etc. Faut être factuel. Faut vraiment être extrêmement simple sur ces sujets-là, en fait. Oui, ça marche ou ça marche pas.
Le manager, tu l'embauches pas pour conserver une équipe, tu l'embauches pour produire des résultats. Et à partir du moment où il en produit, peu importe la manière.
Et c'est la question du délai.
Non, pas peu importe la manière, justement. Parce que tu veux pas trop de résultats, trop vite, au risque de perdre ton équipe. Il faut que le manager soit bon en termes de régularité, en termes d'efficacité. C'est touchy, finalement, comme résultat à mesurer.
Et il faut qu'il adhère extrêmement bien aux valeurs de la boîte. C'est pour ça qu'embaucher un manager, c'est aussi beaucoup de discussions très ouvertes. C'est pas des entretiens de recrutement assez classiques. C'est des entretiens de recrutement où tu parles de ta boîte, de ce qui compte pour toi, des valeurs de ta boîte. Encore faut-il y avoir réfléchi et les avoir formalisées. Encore faut-il que ces valeurs soient partagées par le reste de l'entreprise et soient globales. Bon, chez nous, chez Imakina, par exemple, on est une boîte de doueurs. On est une boîte très... légitime, c'est-à-dire que tu acquiers tes responsabilités par ta légitimité, parce que tu as produit des choses, parce que tu as montré que tu savais avoir de l'engagement, de l'empathie pour ton équipe, de l'empathie pour tes clients. Tu débarques pas comme ça en étant réputé le meilleur du monde, etc. Il va falloir que tu fasses tes preuves. Chez nous, les collaborateurs ont énormément de pouvoir. On a déjà engagé des gens qui présentaient toutes les qualités managériales qu'on imaginait, mais qui se comportaient pas bien, humainement. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que les équipes commencent à grogner envoie des reports, un premier, un deuxième, les fameux fail reports dont je parlais tout à l'heure. Et au bout d'un moment, bah oui, on va laisser le manager, on va parler au manager, on va lui dire, regarde, là, il se passe ça, c'est pas normal. On donne énormément de valeur au retour opérationnel des équipes, les gens qui sont sur le terrain, etc. Il faut que tu changes ça, ça, ça et ça. Et si ça marche toujours pas, c'est pas les équipes qui vont sauter, c'est le manager.
En tout cas, si vous avez d'autres idées de sujets, ben, n'hésitez pas à nous les proposer avec le hashtag TechOut sur Twitter, à suivre évidemment ce podcast sur toutes les plateformes. Et puis, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu de lucidité. À très vite.
La bise.
Bye bye.
J'ai toujours rêvé d'être footballeur. Tout petit, on jouait tous les footballeurs. Ça a l'air trop bien d'être un footballeur. Mais je voulais pas faire les corners. Est-ce que je peux quand même être footballeur? Ça a l'air trop bien d'être un footballeur. Je suis là si vous manque un footballeur.